Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter en direct, toujours plus nombreux, 1 million. Le samedi, un petit peu plus d'1 million. Et vous êtes aussi extrêmement nombreux, on bat des records en podcast tous les mois. Sachez que nous avons parlé de cet exploit de Gaël Monfils à 9h du matin. Exploit au troisième tour de l'Open d'Australie, direction donc les huitièmes de finale pour notre Français. Il affrontera l'Américain Ben Shelton. On retrouvera un petit peu plus tard Eric Salio en direct de Melbourne. Et puis nous avons également évoqué la réintégration au sein du 15 de France d'Hugo Horadou et d'Oscar Jégou, mais également du Vendée Globe. Vous pourrez tranquillement aller réécouter tout ça en podcast cet après-midi. Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Marc Madiot, Denis Charvet ce matin. Dans quelques instants, la seconde des GG, John Textor s'attaque au Paris Saint-Germain et à Nasser Al Khelaifi. C'était l'interview événement sur RMC. Croyez-vous à la révolte des présidents? Ce sera notre question. 11h30, le dossier des GG autour des supporters, notamment français, extrêmement bruyants en tribune pendant l'Open d'Australie, à tel point qu'un match a dû être déplacé sur un autre court, le vacarme, le bruit, appelez ça comme vous voulez. Est-ce l'avenir du tennis? Vous n'êtes pas d'accord là aussi, les GG. Et puis 11h45, le débat caché, le fameux débat caché. Vous ne savez rien, les GG. Pourtant, il va falloir débattre. D'après vous, la petite inspiration là, c'est quoi le débat caché du jour?
Le transfert raté de Colomagny.
Pour l'instant, raté.
Ah bah il a bien l'air d'être
Il embrogue quand même le chemin.
Il doit aller à la Juventus en prêt, sauf que le PSG a déjà prêté 6 joueurs et qu'on ne peut pas aller sur une saison au-delà de 6 joueurs. Voilà, donc faut trouver une situation, soit rapatrier un joueur, soit vendre le joueur directement au club. Voilà. Je resitue, mais voilà. Colomani. Ça, ouais. OK. Sarah Pitkowski, le débat caché.
À mon avis, peut-être quelque chose sur le basket. Wembanyama qui arrive la semaine prochaine pour 2 matchs en France. Est-ce que ces 2 matchs peuvent être importants pour lui? Voir où en est sa notoriété.
Mais il a déjà dit que c'était important.
Oui.
Oui, mais on peut en débattre quand même.
On a le droit d'en débattre, non?
Non, mais tu dis, est-ce que c'est important? Il a déjà dit.
Est-ce qu'on a le droit d'en débattre?
Wembanyama,
la semaine prochaine.
Non, c'est interdit.
Très bonne proposition. Déjà, on en parlera, c'est sûr, la semaine prochaine, mais pourquoi pas dès aujourd'hui dans le débat caché. Christophe Cessieux.
Pourquoi pas un petit débat sur faut-il contraindre les autorités à organiser une étape du Tour de France à Montmartre l'été prochain?
Oui, bien joué, bien joué. Est-ce qu'il faut
pour qu'on ait le tour à Montmartre?
Ah,
Marc, il est pas d'accord.
Ah, il faut pas.
Le débat caché. C'est peut-être le débat caché.
Oui, c'est okay,
d'accord pas. Avec Marc pour une fois.
Mais c'est une bonne proposition de Christophe. Marc.
Ça peut faire des
bonnes propositions. Pas Flavio Briatore.
Pas Flavio Briatore. Du bon français.
Tu sais quoi? Un jour, je te le ferai. Un jour, je ferai un débat caché. Flavio Briatore, vas-y.
J'avais fait ma crise de la soixantaine sur Briatore. Je l'avais fracassé.
La redoutable association Godu Martin peut-elle faire trembler le Tour de France?
Oui! Oh oui! Oh,
ça, si c'est pas corporel,
vous savez quoi?
Il est bon.
Il n'est pas impossible que je change mon débat caché et que je prenne ça parce que nous avons le patron de la Groupama FDJ avec Guillaume Martin qui vient d'arriver cet été.
Ouais.
Incroyable.
T'y crois, toi?
Très beau transfert.
Oui. Tu vas nous l'expliquer.
Rémi Cavagna. C'est pas cet hiver, oui, évidemment.
Rémi Cavagna.
Romain Grégoire.
Romain Grégoire. Non, franchement, j'ai une équipe sympa, vous allez voir.
Romain. Godu,
David Godu,
David Godu, Guillaume Martin.
Non, je vois rien du tout. Non, j'y crois, ouais.
Si tes petits protégés gagnent 4 étapes sur le Tour de France, c'est historique ou pas?
On a fait deux étapes.
Est-ce que ton équipe
va être meilleure qu'à Jezzard Décathlon cette saison?
Oui.
Parce que l'année dernière, ils ont mis une rose quand même, hein.
Non. Ils ont marqué quelques points de plus sur l'année, mais en cumulé sur les deux saisons, on est largement devant.
Ah, sur les deux saisons, d'accord.
Sachez que Marc Madiot est avec nous tout le week-end, donc demain également. C'est sûr, on va en parler.
Ah non, mais c'est bon, ça.
Parce que c'est vraiment un très bon débat. Bravo, mon cher Marc.
Il y aurait pu aller en Mbappé, Mbappé avec le geste sur les cuissons du Real Madrid.
Le challenge, c'est de faire le week-end sans Mbappé.
Mais Denis, c'est quoi ton indiscipline depuis ce matin?
C'est l'habitude. Franchement, il faut venir tous les samedis, Denis. Christophe aussi est pas mal au niveau indiscipliné. On va débuter déjà 11h12 les copains avec cette citation de Malcolm de Chazal qui a dit un jour: toute révolution amène forcément avec elle une hécatombe.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Je suis fier de vous présenter à vous et au monde le révolutionnaire
John Textor. Globally, it sucks.
It sucks.
You stupid son of a bitch.
C'est juste la seule personne qui a le courage de parler à ce jour.
Qu'est-ce que tu fais ici, Bastel, hein? Qu'est-ce que c'est?
Un président de la Ligue était assis,
sans rien dire,
comme un toutou.
Quand t'es là, c'est qu'il y a des grabouges dans l'air.
So PSG can kick our ass every year.
What a jerk.
Guys, can I tell you something? This is bullshit.
Come to withdraw my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch. Ah, sacré Hubert. Toujours le mot pour rire.
Oh my God, j'adore le brioche et le bon vin. Pour la première fois depuis 14 ans, un homme, un président, s'est dressé contre le Paris Saint-Germain et le Qatar. John Textor est sorti du bois lundi sur RMC dans l'émission Rotten sans flamme. Une interview évidemment à retrouver sur le podcast, mais également sur YouTube en intégralité. Alors il est sorti du bois pour se poser en contre-pouvoir du mastodonte parisien et surtout son président Nasser El Khelaifi, qui l'accuse d'avoir fait main basse sur le football français. Le propriétaire de l'OL veut une réaction des autres présidents de Ligue 1, une réelle prise de conscience. La musique qui fout les jetons est cette question. Croyez-vous à la révolte des présidents? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non, pas une seconde.
Sarah Pitkowski?
C'est impossible.
Oula. Marc Madiot?
Non.
Denis Charvet?
Non.
Ah. Ok, on va débattre tout de même dans quelques instants. On vous attend
avec qui, alors,
avec 32-16. Mais je sais que vous avez beaucoup de nuances et beaucoup de choses à nous dire sur ce dossier. Juste avant, notre journaliste RMC Sport Nicolas Pelletier est avec nous. Bonjour Nicolas.
Salut JC, salut à tous.
John Textor, c'est vrai, a décidé de frapper fort lundi.
Oui, je sais, John Textor a frappé très fort lors de cette interview sur RMC. Le propriétaire américain de l'OL a lourdement taclé le financement du club de la capitale par le Qatar.
Je mets Nasser au défi de respecter les règles européennes. Ne finance pas ton club avec des fonds illimités d'un État étranger. C'est une violation de la loi.
Et puis, John Textor a dévoilé quelques coulisses d'une réunion l'été dernier au sujet des droits TV à la Ligue de football professionnel. Encore une fois, l'Américain vise Nasser El Khelaifi. Il n'apprécie pas du tout la double casquette de celui qui est à la fois président du PSG et de beIN Sport.
S'il y avait une voix discordante, Nasser El Khelaifi aboyait sur cette personne. Il y avait beaucoup d'intimidation aussi. Le président de la Ligue était assis, sans rien dire, comme un petit toutou. La Ligue est d'une manière assez folle dominée par cet homme. Et ça, je n'en avais pas conscience. L'influence du PSG sur la Ligue et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d'être regardé de plus près. La DNCG ne devrait pas appartenir à la Ligue.
Cette semaine sur RMC, Pablo Longoria, le président de l'OM, a donné son avis sur cette sortie de John Textor. Il a appelé au respect des uns et des autres.
Il y a des choses qui dit John qu'il a raison. Pour moi, c'est normal d'admettre qu'il y a eu des erreurs dans la négociation commerciale des droits de télévision dans les championnats français. Par contre, pour moi, toujours, il y a une question de forme. Et depuis que je suis dirigeant, et c'est quelque chose que c'est important, il faut toujours respecter les codes de football. Et ce n'est pas possible de manquer de respect à des confrères et des homologues. Tu peux faire passer tes messages. Et ce que je ne cautionne pas, c'est ce manque de respect vis-à-vis de tes confrères.
Toutes les parties visées par John Textor lors de cette interview ont réagi. Dommage que la classe et l'élégance ne s'achètent pas, a commenté dans la foulée un porte-parole du Paris Saint-Germain. Ça aurait permis à Monsieur Textor d'éviter de se ridiculiser avec ses outrances grossières et mensongères.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ces précisions. Et je le rappelle, hein, cette interview fleuve est à retrouver en podcast évidemment de John Textor où il balance. Croyez-vous à la révolte des présidents? Sachez que nous avons contacté quelques présidents pour venir s'exprimer ce matin dans les grandes gueules du sport. Tout le monde a répondu avec trois lettres.
Caca culotte.
Non. Non, ils ont dit simplement non. Ils ne veulent pas
réagir. Non, mais c'est
dire si c'est un problème pour les présidents de sortir du bois. Bah, John Textor a voulu le faire. C'est pour ça aussi que je vous pose cette question. Est-ce qu'à un moment donné, vous croyez à cette révolte? Parce que John Textor a envie, à un moment donné aussi, d'être suivi. Marc Madiot, tu voulais.
C'est impossible.
Pourquoi?
Bah, tout simplement parce que quand tu es président de quelque organisme que ce soit, tu es au sommet de la pyramide. Donc tu ne fais jamais la révolution quand tu es président. Donc ça n'existe pas.
Oui, mais t'as plusieurs présidents qui peuvent se mettre.
Non. Mais tu as des clubs forts en France. Donc t'as Lyon avec John Textor, t'as Marseille aussi.
Oui, mais
Longoria.
Tu as entendu Longoria. Il faut respecter.
Non, c'est impossible.
C'est donneur de leçons.
Regardez ce qui se passe en Espagne.
Les révolutionnaires ne sont jamais les présidents.
C'est notamment Diego Simeone qui a dit il y a quelques heures, par rapport à une erreur d'arbitrage lors du match en Coupe du Roi face au Real Madrid, et qui a dit non mais. ça fait 100 fois, ça fait 100 ans, ça fait 100 ans qu'on connaît ça. C'est-à-dire l'avantage un peu du Real Madrid sur les arbitres. C'est-à-dire, en Espagne, ils sont capables de monter au front. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec Dani Olmo au FC Barcelone, les autres clubs sont montés au front. Pourquoi c'est pas possible en France?
Pourquoi c'est pas possible? Parce que le foot français est totalement sous perfusion du PSG.
14.
Donc, quand on dit du PSG, on dit de beIN Sport. Quand on dit de beIN Sport, ouais, on dit du Qatar. Donc, en fait, malheureusement, et c'est pas contre Nasser, c'est qu'aujourd'hui, les clés sont détenues par un État qui s'appelle le Qatar. Voilà, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si il y a des droits télé qui se maintiennent.
Oui, mais s'il n'y a pas le Qatar, est-ce qu'il y aurait une Ligue 1 aujourd'hui?
Eh bien, exactement.
Ben, il y aurait peut-être une Ligue 1 plus équilibrée. Il y aurait peut-être des champs. Alors, il n'y aurait peut-être pas. C'est-à-dire qu'on n'existerait pas à l'échelle européenne, il n'y aurait sans doute plus aucune star, mais il y aurait un championnat peut-être plus équilibré, peut-être plus sympa.
Oui, mais les clubs vivraient de quoi? Mais les clubs vivraient de quoi? Parce qu'aujourd'hui, le football, les clubs professionnels vivent à quasiment 70% des droits télé aujourd'hui. Oui,
donc, il n'y a pas d'économie, on le sait, ça.
Donc, quel est le club qui a fait venir des méga stars qui ont fait que les droits télé ont dépassé le cadre de l'Europe?
Il y a un club qui était capable de faire. Pourquoi ne pas prendre le modèle du championnat d'Allemagne? Les Allemands ont peut-être, ils ont des stars, mais ils en ont moins que nous. Sauf que, ils ont réussi à vendre leurs droits télé 1 milliard d'euros.
Mais c'est pas la même chose.
1 milliard d'euros, c'est pas, alors qu'ils ont pas les stars d'Angleterre.
L'erreur a été faite, on va chercher Mediapro et on dit, attendez, notre championnat vaut 1 milliard. Mais donc, ces erreurs-là, il y a un moment, il faut que tu les éponges. Et aujourd'hui, celui qui maintient à flot la Ligue 1 est à peu près, dans un paysage européen, c'est uniquement le PSG et beIN Sport qui dit, mais tu maintiens juste la tête en l'eau.
Angers ne paie pas ses joueurs en ce moment, donc tu maintiens rien du tout, il y a tous les joueurs.
Sinon ce serait la catastrophe.
Mais non, mais tu parles des équipes de Ligue 1, là, je suis désolé, Angers, c'est en Ligue 1.
Eh ben
non.
Oui.
Mais oui, mais ça n'a pas solutionné tout le problème de l'économie de la Ligue 1 aujourd'hui.
Mais ça n'a pas résolu tout ça, mais heureusement qu'il y a encore le PSG et qu'il y a beIN Sport qui se positionne. Sinon, la pyramide, c'est trop.
On est d'accord.
Nasser, par exemple, a refusé que la Ligue fabrique sa propre chaîne et vende directement.
Je ne sais pas si c'était viable.
Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, DAZN plus la petite part que Phil beIN, c'est pas du tout au niveau de ce qu'espérait le dirigeant des Français.
Mais s'il n'y avait pas ça, il se passerait quoi? Ce serait encore pire.
Oui, mais je pense que
personne s'élève face à la voix de Nasser ou à la voix du PSG, parce que malheureusement, il n'y a pas de concurrence au PSG depuis quasiment près de 10 ans. Donc en fait, par les choix et par la non-présence des présidents, on a laissé cette hégémonie s'imposer.
Moi, je trouve
au
très maladroit.
Ils sont pieds et poings liés.
Moi, je trouve très maladroit quand même. Et je trouve, c'est vrai, il manque un peu de classe chez Textor, parce que finalement, il devrait quand même un peu saluer quand même ce qu'a fait le Qatar. Le Qatar, au contraire,
qu'est-ce qu'il a fait pour lui et pour Lyon?
Non, mais
et pour l'OL, il a fait quoi?
C'est un Américain qui vient investir en France. Il a mis la main sur le football français.
Non, mais il donne des bonbons
tout
aux uns et aux autres. Il achète quelques joueurs.
Non, mais tu reproches tout.
Il impose une main de fer, sa politique, aux autres présidents.
Sauf que le lendemain, tu aperçois qu'il donne 150 millions à la. Il a un trou de 150 millions. Donc je veux bien moi qu'il fasse des raisonnements, mais qui déjà s'occupe de son club.
Alors, non, mais ce qu'il est en train de dire, John Textor, et on va pas rentrer non plus dans tout le fond des sujets qu'il a donné, mais il parle de la multipropriété. Il ne comprend pas qu'en France la DNCG ne vole pas de cette multipropriété et qu'à l'inverse elle ferme les yeux, ou en tout cas elle dit ok, c'est bon pour un État souverain qui investit dans un club avec des moyens illimités. Alors que lui il dit laissez-moi traiter comme un Américain d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Oui. C'est culturel. Laissez-moi traiter mes affaires comme j'ai envie de les traiter. Si j'ai envie d'avoir 10 clubs et qu'en même temps je déshabille un tel pour garnir un tel et tout ça, c'est mon business à moi. Et c'est ça qui n'arrive pas.
Moi, ce qui m'agace le plus avec Nasser, mais je pense que personne n'ira à l'encontre de lui, mis à part Textor qui a sorti un peu, c'est cette omniprésence à tous les niveaux du football français. Il est à la fois le grand argentier, il est le président du club, enfin de la télévision télévision qui achète les droits. Il est celui qui achète les joueurs et donc qui maintient quelque part artificiellement sous respirateur artificiel les clubs qui vendent.
Ils ont créé cette dépendance, c'est ce que tu veux dire.
Voilà, ils sont et aujourd'hui tout le monde est dépendant du PSG.
Et si tu enlèves,
d'après ce que dit Textor dans les réunions de la Ligue, il agit comme peut-être pas un dictateur, mais comme un despote éclairé.
Mais on lui a laissé les clés. C'est pas de ça. C'est tout ne revient pas. C'est tout ne revient pas.
On lui a laissé les clés parce qu'il a mis les thunes.
Non, parce qu'il y a eu des mauvais choix.
Il a sauvé la Ligue 1 aussi.
Mais parce qu'il y a eu des mauvais choix des autres présidents à un moment.
C'est que le PSG n'empêche personne de s'installer en face. Regardez ce qui se passe avec le Paris FC qui arrive sur le marché. Il n'empêche personne de venir s'installer en face de lui. Au contraire, je pense que ça va activer le business pour le PSG.
D'ailleurs, Marc, c'est ce que dit John Textor. Il dit Nasser Al-Khelaifi pense qu'il fait du bien au football français, alors qu'en fait, il est en train de lui nuire. C'est ce qu'il dit.
Non, moi, franchement, heureusement qu'il y a le PSG.
C'est là où je suis pas d'accord avec lui.
Heureusement qu'il y a le PSG.
Mais heureusement, oui.
Oui. Qu'est-ce qu'on va tous faire dans la semaine qui arrive par rapport à la Ligue des Champions? On va tous se précipiter sur le match du PSG contre Manchester City. Donc heureusement qu'il y a le PSG.
Heureusement, mais s'ils ne sont pas là, il y a...
oui. C'est... Ben oui,
il y a Yann qui nous appelle au 32-16, il veut intervenir dans ce débat. Salut Yann.
Bonjour à tous.
Supporter de Lyon, donc c'est son président qui a parlé. Alors, on va avoir le discours de Yann. Est-ce que tu crois à la révolte des autres présidents?
Oui, alors juste en préambule, moi je suis désolé, mais après c'est pas parce que M. Textor a parlé, en l'occurrence, je suis pas totalement d'accord avec la manière dont M. Textor gérait notre club. Néanmoins, sur ses propos concernant la Ligue 1, il a entièrement raison. Contrairement à ce que vous dites, le Qatar ne maintient pas la tête de la Ligue 1 hors de l'eau, mais au contraire, la maintient plongée dans l'eau. Je suis désolé, mais depuis 15 ans que le Paris Saint-Germain tient les rênes de la Ligue 1, justement, ce n'est pas une locomotive. Elle a laissé tous les autres wagons à quai. Pendant des années, elle n'a mis de l'argent que dans du recrutement à l'extérieur. Ça fait que quelques saisons que, gentiment, ils nous donnent 2-3 miettes à 2-3 clubs de Ligue 1 pour acheter 2-3 stars ou 2-3 pépites.
Mais elle a valorisé la Ligue 1 quand même.
Mais pas du tout.
Mais quand même... Le PSG,
avant à l'international, ça n'a jamais été vendu aussi cher.
Mais les droits internationaux,
oui, c'est pour abonder dans ton sens.
Oui.
Mais Yann...
50 millions pour Barcola, c'était pas mal quand même, non?
Ah non, mais oui, d'accord, mais à l'échelle du PSG, ça reste une miette. Je suis désolé, c'est tout récent. C'est l'année dernière. Dites-moi, quels sont les transferts français, franco-français, faits par le PSG dans les 10 premières saisons où ils sont arrivés en Ligue 1? Ah, vous n'arrivez pas à me citer.
Évidemment, ils ont pris que des stars à l'étranger.
Si, je vais t'en citer un. Je vais t'en citer un.
Mbappé à Monaco.
Alors, Monaco, c'est pas mal quand même, non?
Ah, bah, formidable.
Tu nous en demandes un.
Oui, il y a eu un, en effet. D'accord, il y en a eu un.
Et en plus, une énorme star.
Il y en a eu un. Voilà, donc formidable, il y en a eu un. Donc, ça a apporté presque 200 millions à Monaco. Très bien, merci. Ok, pas de souci. Et il y en a eu un.
Et au PSG, on voulait prendre Cherki, vous n'avez pas voulu le.
Mais non, mais le problème est au-delà de l'ambitionnel du PSG. Regardez l'état de la Ligue 1 aujourd'hui. Regardez comment c'est passé dans les années 70. Vous aviez Saint-Etienne, pour le coup. Vous voyez, je suis lyonnais. Pas de souci, Saint-Etienne était la locomotive. A entraîné derrière Nantes, Bordeaux, Marseille. Marseille-Bordeaux ont pris la relève derrière. Là, depuis 15 ans, dites-moi, ils sont partis tout seuls. Ils ont laissé tous les autres à quai. Et aujourd'hui, justement.
Mais tu peux pas tout leur reprocher quand même.
Je veux dire. C'est aux autres de profiter du.
Non, mais tu vois. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu vois tout que le négatif. Ben ouais. Excuse-moi, je peux pas entendre ça, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a peut-être des méthodes qu'il faut revoir, je ne sais pas.
Oui, largement, oui.
Non, mais quand on dit Nasser, c'est vrai qu'il est une espèce de despote, peut-être, j'en sais rien. Mais après.
Il va pas aller contre ses intérêts, de toute façon.
Et puis oui, et puis ils ont mis quand même, je sais pas, ils ont valorisé cette Ligue 1, alors qui était en chute libre avant de leur arriver. Je sais pas moi. Après,
il y a 2-3 ans passés, quand il y avait Neymar et Messi qui étaient dans le championnat français, on se glorifiait tous que ça faisait du bien au football français, que ça valorisait le championnat, on remplissait les stades, etc. Puis là, d'un seul coup, on lui tombe sur le dos. C'est un peu facile. Moi, je trouve que quand le Paris FC va arriver, déjà, ça va donner une inspiration et une aspiration au championnat français.
En tout cas, ça fait pas de mal. Ça, tu as bien raison de le préciser, mon cher Marc. Merci.
Et peut-être que Marseille va on va passer une vitesse de plus.
On l'espère aussi. Voilà ce que l'on peut vous dire sur le sujet.
Il faudrait qu'un État suive derrière l'OM.
John Textor sur RMC, c'était lundi dans l'émission Rotten sans flamme. N'hésitez pas à aller réécouter tout ça en podcast. Dans quelques instants, le dossier des GG. On va vous parler du bruit dans les tribunes à l'Open d'Australie et vous rappeler évidemment cette information. Gaël Monfils qualifié pour les huitièmes de finale. Exploit magnifique face à Taylor Fritz. Les victoires en quart de finale, c'était cette nuit et malheureusement la défaite de Corentin Moutet. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Marc Madio, Denis Charvet et Eric Salio en direct de Melbourne pour l'Open d'Australie. Eric, il y avait deux Français sur les cours cette nuit et évidemment cet exploit monumental de Gaël Monfils. Malheureusement, ça passe pas pour Corentin Moutet.
Non, il était battu en 3-7 par le fameux américain, la Tienne, qui avait battu Medvedev au tour précédent, défaite 7-6, 6-3, 6-3. Puis on a appris en conférence de presse, parce que j'étais en direct et je l'ai appris par un confrère, qu'il avait fait un petit malaise sous la douche 45 minutes avant de se présenter sur le court. Donc effectivement, c'était pas les meilleures conditions pour aborder un troisième tour de Chelem.
Exactement. Et puis Gaël Monfils, lui, s'est qualifié. Il affrontera Ben Shelton, hein. C'est ça, Eric?
Oui, Gaël en 4-7 face à Fritz. Et donc Shelton, lundi, on ne connaît pas encore l'horaire, hein, mais ça peut être effectivement une night session. Donc ce serait donc vers à partir de 9h, heure française.
Ok, et Yannick Sinner s'est lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Sinner qui pourrait retrouver Monfils, si tout va bien. Si c'est grandiose.
Oui. Allons loin, oui.
Mais pour l'instant, il y a huitième de finale dans la nuit de dimanche à lundi face à Ben Shelton. On va justement rester en Australie.
RMC, le dossier des GG.
Go, Bondi, let's go! Let's go, Bondi, let's go!
Alors, à partir de deux fois, on peut appeler ça une habitude, comme l'année dernière, une petite colonie de supporters français, vous en avez entendu notamment quelques-uns, est en train de mettre le feu en tribune durant l'Open d'Australie, un bruit tellement assourdissant et gênant qu'un match disputé sur le court d'à côté a dû être déplacé sur un autre court, c'est inédit. Eric Salio est toujours évidemment avec nous pour nous en parler. Eric, l'Open d'Australie est en train de devenir un tournoi un peu à part, hein, quand même.
Ouais, alors mercredi c'était vraiment un contexte particulier, elle avait beaucoup plu et les organisateurs ont lancé les matchs tous azimuts sur les cours annexes et sur le 6 il y avait une ambiance assez dingue lors du match entre Cazo et l'écossais Fearnley et sur le cours d'à côté, Félix Auger-Aliassime et Alejandro Davidovich-Fokina n'en pouvaient plus et sont arrêtés pour demander un déménagement d'urgence, écoutez le Canadien.
C'est plus que perturbant, c'est impossible même à jouer, j'ai jamais vu ça au tennis où en plein milieu du point ça crie comme si c'était sur notre court, donc c'est impossible, j'aurais dit venez voir ce que c'est, puis dites-moi si vous trouvez que c'est adéquat pour jouer au tennis.
Et quand le déménagement lui a été rapporté, Arthur Cazot se retenait presque de rigoler.
Je sais pas à quoi ils tournent les supporters qui étaient là avec moi, mais c'était impressionnant sur chaque point l'énergie qu'ils mettaient. Franchement, je me mets à la place de Fokina ou Félix. Je pense que ça me ferait fissurer aussi de jouer sur un court et à côté, tu peux pas jouer parce que ça fait que crier comme des fous.
Alors ces fameux supporters, je les ai rencontrés hier. La plupart profitent des fameux visas vacances travail et avant l'Open d'Australie, Clément par exemple a ainsi rempli son petit compte en banque de manière originale.
Alors moi je suis arrivé en Australie fin septembre, j'ai commencé à Adélaïde, j'ai travaillé un peu, après j'ai voyagé sur la côte, je suis parti en Nouvelle-Zélande et là je suis arrivé à Melbourne exprès sur la période de l'Open d'Australie. Là, j'ai travaillé dans une usine de miel, je faisais du packing, en gros je mettais les pots de miel dans des cartons et après je sur les palettes et puis c'était envoyé directement aux clients.
Bah, ce qu'on note surtout, Jean-Christophe et les grandes gueules, c'est que les Australiens, avec les bières et les cocktails alcoolisés aidants, sont parfois borderline dans les tribunes. Novak Djokovic s'est accroché, et c'est pas la première fois, avec un spectateur qui ne cessait de l'importuner.
De temps en temps, certains vont trop loin. Je comprends, tu as bu un verre ou deux de trop et tu commences à t'exciter. Mais quand on est sur le court, ça peut être frustrant, surtout si ça tombe à un mauvais moment du match. Et si c'est répétitif, si ça dure une plombe, arrive un moment où tu en arrives aussi au point où tu as juste besoin de répondre face à ces provocations permanentes. J'essaye d'être tolérant, mais à un moment donné, je dois répondre. C'est tout.
Daniel Collins, vous avez sûrement vu cette image, a eu également une réaction épidermique envers la foule hostile. L'Open d'Australie, il y surmet le Happy Slam, mais parfois, on regrette presque le silence et le respect du jeu de Wimbledon, le temple du tennis.
Merci Eric Salio. Alors cette question dans les grandes gueules du sport ce matin, et vous n'êtes pas d'accord, et on va entendre votre position dans quelques instants. Le vacarme dans les tribunes, est-ce que c'est l'avenir du tennis? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je pense que oui.
Denis Charvet.
Non, évidemment.
Marc Madio.
Oui.
Sarah Pitkovski.
Non, surtout pas.
Non, surtout pas. J'ai envie de commencer par, oui, par Christophe. Par Christophe même. Pourquoi ? Bah non, justement, il est content.
Non, bah, il est content. Plaît, je...
Un peu de, un peu de
mais
bordel.
Oui.
Un peu.
Alors, il faut pas non plus que ça déborde.
Non, tu veux les jeux du cirque. Toi,
mais je trouve que les supporters français en Australie mettent de l'ambiance. Ils sont assez respectueux, c'est-à-dire que ils crient à la fin des échanges pendant le changement de côté et ils crient pas pendant.
Oui, ça gêne tout le monde.
Pendant le match.
Je crois que t'as pas bien vu les matchs.
T'as bien vu.
T'as surtout bien dormi la nuit là depuis 10 jours.
Il y a quand même. Bien sûr, mais c'est des attaques viles et basses de ta part.
Il y a quand même une rencontre qui a été changée en plein match.
Et alors, toi, les matchs de rugby, t'aimais bien le faire dans le silence des cathédrales.
Il y en a marre du conservatisme, du réactionnisme.
Vous êtes les symboles du réactionnisme et du conservatisme.
Moi, j'ai une solution toute trouvée.
Donc, un peu de révolution, un peu de bruit, un peu de bougeotte.
Moi, j'ai une solution toute trouvée pour résoudre ce problème.
Marc,
si ça vous convient pas, le bruit. Faites des matchs à huis clos, une caméra de télé qui filme, et puis on va s'endormir tranquillement.
C'était magnifique pendant le Covid. Voilà, c'est l'avenir
pour vous. Moi, je vais être provocateur, volontairement provocateur. Laissez libre cours au bruit du public. Laissez libre cours.
Mais
tu vas sauver le tennis.
Mais il y a des spécifiques.
Tu tournes à droite.
C'est bon, hein.
Tu tournes à gauche. Tu tournes à droite. Tu retournes à gauche. Gérard, c'est ça l'avenir du tennis.
Mais non, arrêtez.
Si on a les mêmes réactions que sur un stade de foot dans un.
Eh bien, ça le problème.
De rugby.
De rugby.
Au moment du service, au moment de l'engagement,
tu demandes au public de se taire. Et une fois que l'engagement est parti, une fois que l'échange est lancé,
je suis à l'opposé de ce que vous dites, parce que moi, quand je suis spectateur dans un stade de tennis, je dis bien dans un stade de tennis, ce qui est différent de regarder à la télévision.
Mais t'es dans les loges en train de boire du champagne, alors, tu vas pas voir les matchs.
Le révolutionnaire Che Guevara.
C'est vrai, votre jeu. Si, je t'ai donné la main en premier, tu m'as dit oui.
Justement, je trouve qu'il y a une solennité dans les tribunes.
Trop.
Non, mais j'apprécie ça, justement. C'est ce que j'apprécie. Il y aurait du vacarme, il y aurait du bruit. Ça m'emmerderait, le tennis.
Essayons.
Mais non, mais moi, j'aime le tennis. Toi, t'aimes pas le tennis, c'est ça, le truc.
C'est pas que j'aime pas le tennis.
Mais si, t'aimes pas le tennis.
Non, mais il y a des
spécificités. Si tu vas voir un sport, c'est pour aussi
Il y a des spécificités dans le tennis. Qu'aujourd'hui, le tennis se soit footballisé dans les stades. Oui, on a eu ces mêmes sujets-là à Roland-Garros. On a eu ces mêmes sujets en disant qu'il y avait des supporters qui étaient indisciplinés. D'ailleurs, on disait des spectateurs, maintenant on parle de supporters. L'Open d'Australie, historiquement, même du temps où je jouais, donc il y a une vingtaine d'années, il y avait des colonies néerlandais qui étaient là, tout en orange, qui hurlaient. Et puis quand c'était pas les Néerlandais, c'était les Suédois. Quand c'était pas les Suédois, c'était les Serbes. Pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, le tennis, quand tu frappes la balle au service, si t'as quelqu'un qui se met à hurler, forcément ça va te faire rater. Et quand t'es en bout de course, en train de faire une défense, t'as un mec qui te hurle dessus ou qui te dit faute, il y a un moment tu t'arrêtes de jouer. Donc il faut que ça corresponde au fonctionnement du tennis. Donc entre les points, entre les changements de côté, mettre de la musique, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, t'as des vraies playlists entre les changements de côté pour que le spectateur se défoule, pour qu'il se mette debout, pour qu'il parle. Mais quand ça joue le point, le tennis c'est déjà un sport tellement haché, c'est-à-dire le temps de jeu effectif était déjà tellement peu, on peut pas rajouter du bruit. Benjamin Bonzi sur son match qui perd, il disait il y avait tellement de vacarme que j'entendais pas le bruit de la balle.
Oui.
On a besoin d'entendre le bruit de la balle parce que dans le bruit de la balle on entend les faits et on a besoin de ça pour jouer au tennis.
Mais ça rend même le spectateur quand tu es dans le stade, le son de la balle et le souffle du joueur même.
Mais t'entends le mec qui monte au filet ou la nana qui monte au filet, tu l'entends, il y a des choses qui se passent. Il faut laisser l'espace de jeu. Après, entre les points, entre les jeux, entre les sets, il n'y a pas de problème. Mais il faut s'arrêter au moment où le point se déroule.
Ça serait une catastrophe.
Christophe Cessieux me fait la tête, là. Il veut
plus parler. Ça serait les jeux du cirque. Mais non, mais quand tu veux les jeux du cirque, tu veux le mec qui lève le pouce et qui dit on le tue, l'autre. Voilà.
Ah, ça y est, il se rapproche du micro, Christophe.
Non, j'ai plus rien à dire. C'est bon.
Ah, ben voilà. Monsieur,
t'as été convaincu. Non, mais je pense que ça vaudrait quand même le coup.
Christophe, la démonstration de Sarah est implacable. Je suis désolé. Moi, j'étais sur le cours de Bonzi. Il y avait un brouhaha. J'ai jamais vu.
On va essayer quand même.
Il sait ce qui se passe.
Dans les tennis où les mecs ont besoin d'être concentrés.
Et là, on arrive à la limite. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais on arrive à la limite des choses. À l'US Open, historiquement, il y a un bordel sans nom de bruit.
Parce qu'il y a quelqu'un qui se lève dans les tribunes, vous faites arrêter le jeu. Non,
mais est-ce que ton champ de vision, on est un sport d'acuité visuelle. Quand tu lances la balle, enfermez-vous dans une salle sans personne.
C'est pas possible.
Ça commence pas au tennis.
Ou alors mettez un truc des vitres pour empêcher le bruit.
Respecte le tennis.
Je pense que l'ambiance fait partie du monde du sport.
Il y en a de l'ambiance.
Si tu supprimes les spectateurs le long des routes du Tour de France, eh ben, il n'y a plus de Tour de France.
C'est pas la même chose.
Tu supprimes l'ambiance. Tu supprimes le rugby, tu supprimes l'ambiance dans un terrain de foot. Donc voilà, vous nous dites que le tennis est un sport tellement au-dessus qu'il a besoin de sécurité.
C'est le respect
de silence total. Restez dans le silence. Sans mots.
Alors il y a un autre sport qui est comme ça. Il n'y a pas que le golf. Non mais c'est vrai.
Que ce soit bien ou pas bien, pour être un joueur de golf, je sais que
c'est pas au niveau de taper la balle, mais c'est par exemple s'il y a quelqu'un qui bouge au loin, c'est un vrai problème même pour un joueur amateur. Pour le coup, c'est un vrai problème. Ouais. Et tu parlais de visuel, et c'est vrai que c'est un vrai problème. Alors, j'ai jamais joué au tennis, donc je peux pas parler là-dessus. Mais sur le golf, c'est une réalité. Il y a Robert qui nous appelle
au ping pong. Alors au ping pong, on a le droit de faire du beau, non?
Robert, bonjour.
Dis-nous ce que t'en penses, Robert.
Je vous ai bien écouté tous les quatre et finalement, je pense que je vais rejoindre en fait l'avis de Sarah et puis Denis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, même si il y a l'histoire et le poids du tennis. Il se trouve que j'étais par exemple à Wimbledon le week-end dernier. Alors c'est vrai qu'on sent tout le poids de l'histoire. On imagine Roger, etc. On imagine en blanc. On imagine tout l'historique de ce sport. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un petit côté suranné aujourd'hui en 2025. Qui est quand même un petit peu dépassé. Mais ça ne veut pas dire que d'un autre côté, paradoxalement, on doit se retrouver à Ascension lors de France-Paraguay en 85, où en fait c'était une catastrophe. En fait, ce que je veux dire par ces deux exemples-là, c'est qu'aujourd'hui, il faut que ça reste mesuré. C'est sûr que en Australie, ça. Par historique, ça a toujours été assez fun. Les supporters sont très cool. Ils sont aussi de temps en temps. Très cool aussi avec la bière, mais voilà, je pense que le tennis aujourd'hui en 2025 a besoin de ça, mais en même temps il faut que ça reste mesuré. Alors aujourd'hui les codes ont changé par rapport aux années 80-90. Aujourd'hui c'est une nouvelle génération, effectivement c'est des jeunes là qui étaient j'ai vu sur le match d'Arthur Cazot, effectivement qui sont sans doute super sympas, mais il y a quand même des codes à respecter et c'est là où Sarah a raison. Je veux dire, c'est un sport, on a besoin d'entendre le son sur le tamis pour savoir effectivement si ça va être un chiffre, si ça va être un lift, etc., etc. Je veux dire, faut pas d'un côté que ce soit une cathédrale, mais d'un autre côté, en fait, il faut qu'il y ait quand même une relative décence par rapport à l'action de jeu et pour que les joueurs, en fait, ne soient pas perturbés. Et je peux comprendre, pour avoir des spectateurs sur différents tournois, ce que dit un gars comme Oji Aliassime, au demeurant qui est plus trop fair play, mais là je veux dire j'imagine bien que c'était injouable parce que on a besoin de repères, le cours c'est immense, il y a déjà beaucoup de monde et là malheureusement je pense que c'était juste Europa Park, vous voyez.
Le respect des joueurs et du jeu. Okay.
Moi j'aimais beaucoup la Coupe Davis ancienne version justement parce qu'il y avait une ambiance, parce qu'il y avait du chauvinisme et parce que ça bougeait.
Je suis d'accord avec toi mais pendant l'échange.
Mais non, mais
y a pas de bruit.
Pas de hurler pendant l'échange.
Et ben voilà,
laisser les gens s'exprimer un peu sur un court de tennis, quoi. Bon. Enfin, dans les tribunes.
Voilà pour ce débat. Merci beaucoup, Eric Salio, d'avoir été avec nous toute la matinée. Merci, Robert, d'avoir également participé à ce débat. Je sens que Christophe me fait un peu la tête, donc j'ai une vanne pour lui, qui va très bien avec notre débat. Est-ce que tu sais ce que dit un fromager quand il entre dans une discothèque?
Non, pas ça.
Que dit un fromager quand il rentre dans une discothèque?
Je sais pas.
Faites du bruit! Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Je retourne à gauche, c'est ça l'avenir du tennis.
Jean-Christophe Drouet.
Eh oui, du grand Marc Madiot ce matin avec nous, avec Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Denis Charvet. Allez réécouter tout ça tranquillement en podcast. On parlait du bruit dans les tribunes en tennis, et évidemment.
Je pense que ça peut être le jingle du podcast tennis.
C'est peu... Oui, je suis d'accord.
Tu vas faire quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on change notre
C'était
jingle.
La magnifique réponse de Marc Madiot à cette attaque immonde que tu as pu faire sur le Tour de France tout à l'heure à 9h. Sarah, tu as envie. Hein. Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
À l'heure où nous parlons, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Mais sur quel sujet? Mais GG, évidemment. Celui-ci.
Les images du Moulin Rouge, et on peut le dire, les hommes de tête, Benny, Alexei Lutsenko, l'Irlandais, le Kazakhstanais, qui viennent de prendre le début de la rue, le pic de cette côte de Montmartre. 6% de moyenne, passage maximal à 9%.
C'est vrai, Arnaud, cette ambiance absolument magnifique dans les rues de Paris, là, c'est pas souvent que les athlètes et que les cyclistes empruntent cette voie. Hein, quand il y a l'arrivée sur les Champs-Élysées, ils ne viennent pas à Montmartre. Hein. Et en plus, je suis dans la production, c'était pas prévu.
Incroyable. Alors, c'est la seule course cycliste que t'as commenté quand même.
Pendant les JO, c'est la seule. Ce moment est encore dans toutes les têtes. Hein. C'était l'une des images fortes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Yes, populaire, incroyable, le 3 août dernier, lors de la course en ligne de ces JO. Des milliers et des milliers de spectateurs massés dans la remontée de la rue Le Pic jusqu'à Montmartre. Une parenthèse enchantée que l'organisateur du Tour de France souhaite prolonger. Selon les informations du Parisien cette semaine, un dossier a été déposé auprès de la préfecture de police de Paris pour permettre au peloton de passer par la butte Montmartre lors de la dernière étape du Tour l'été prochain. Alors le Tour de France à Montmartre, c'est simple, pour ou contre? Pour ou contre, Christophe Cessieux?
Moi je suis pour, mais...
Pour, Marc Madiot?
Je pourrais être pour, mais je vais être contre parce que ça va pas être...
Tu es contre, ok. Ouais. Sarah?
Logistiquement, je suis plutôt contre.
Plutôt contre. Denis Charvet?
Pour.
Pour. Il y a deux pour, il y a deux contre. On va commencer
avec
Marc.
Elle est romantique, elle est pragmatique.
Ouais. C'est ça.
Pourquoi contre, Marc?
Pourquoi contre? Parce que de toute façon, et c'est normal, on ne retrouvera jamais ce qu'on a connu le jour des JO. On est sur le Tour de France, on est dans un autre événement, on est dans une autre logique sportive. La dernière étape du Tour, il faut savoir quand même que la veille, les coureurs font le transfert, les encadrements d'équipe font un long transfert. On sait que c'est l'arrivée du Grand Tour. Du Tour de France.
Sportivement, c'est peanuts. C'est ce que tu veux
pour
nous dire,
moi, sportivement, la dernière. Ça pourrait,
justement, de par le passage trois fois sur le circuit.
Mais tu fais comment pour les dépannages?
Mais oui, le pic, elle est tellement étroite.
Il faut quand même se souvenir qu'au JO, il y avait 90 coureurs.
Exactement.
Il y avait 90 coureurs au JO.
Et le double sur le Tour.
Sur le Tour, on va si on compte les abandons, 150, 160 coureurs. Comment on fait pour les dépannages? En plus, on est sur le dernier jour de course, ça peut être après trois semaines. Donc vous avez le classement qui est en place, qui est figé. Donc le leader, lui, son seul but, c'est de ne pas tomber et de ne pas avoir de crevaison d'accident.
Pourquoi on fige?
Les sprinteurs,
pourquoi figer?
Les sprinteurs, ils veulent que ça arrive au sprint. Et le reste est content de terminer.
Non, mais là aussi,
pour avoir été coureur, rarement vu des bastons sur la dernière étape du Tour.
Tout à l'heure, tu n'étais pas dans le conservatisme, mais là, dans le vélo, tu es dans le conservatisme.
Mais je suis pas dans le conservatisme.
Le soir de la 20e étape, classement général, tous les classements sont établis.
J'attire juste, vous n'aurez pas ce que vous avez eu sur les Jeux. C'est tout ce que je dis.
Oui, mais si on changeait de doctrine, est-ce que ce serait possible, toi, Christophe, toi qui suis le Tour de France depuis des années, est-ce que ce serait possible?
Ça s'annonce très compliqué.
Voilà.
Marc le disait, moi, c'est un rêve, mais je suis pas sûr.
Pour quel raison,
plaisir, alors, j'ai envie de vous dire oui.
Parce que en termes de sécurité, il faut des bataillons de flics. Parce qu'il faut du dépannage. Et effectivement, dans la rue Le Pic, c'est très étroit. Je ne sais pas si vous souvenez les dizaines de rangées de chaque côté. Ou alors il faut laisser moins d'espace aux spectateurs et laisser
un couloir. Donc tu ne retrouves plus la ferveur que tu as eue pendant les Jeux.
Tu l'auras quand même, parce que c'est Paris, parce que c'est Montmartre, c'est Amélie Poulain, on est dans tout ça. Et là, il peut y avoir un intérêt sportif. Moi, je milite depuis des années pour que le Tour de France ne s'achève pas au soir de la 20e étape. Cette année, ça a été le cas à Nice avec un contre-la-montre, comme ça avait été le cas en 89 avec l'arrivée sur le chrono et Fignon qui s'était fait taper par Lehmann. Je pense qu'on peut faire une vraie course avec un l'intérêt sportif avec le parcours autour de Montmartre. L'arrivée, tu aurais quand même une arrivée sur les champs, mais les sprinteurs devraient
alors,
avoir quand même
passé. Alors, tu aurais une vraie course, mais tu n'aurais pas une étape du tour, parce que la caravane ne peut pas passer.
Ah, mais non, mais ça, on s'en fout.
Mais donc, tu as une vraie course, mais tu.
La caravane,
oui, mais c'est.
Baladée,
mais
quand tu... La caravane, elle se baladera sur les Champs-Élysées.
Mais bien sûr, mais ce n'est pas une vraie étape du tour.
Je ne veux pas de changement et tout. Moi, j'irai plus loin. J'irai, je fais la première étape du tour sur Montmartre. La première étape.
Mais alors là, tu auras une autre course. Pas cette année, mais tu peux éventuellement faire un départ de Paris.
La dernière étape du tour.
Maintenant, ça se fait à l'étranger.
Alors, attendez, juste, je vais répondre et je vais donner la main à Sarah parce qu'elle a des choses à nous dire, mais je vais répondre juste sur vos points. La cérémonie d'ouverture. On a bien vu à quel point, au niveau sécuritaire, c'était extrêmement compliqué. Tout le monde a dit ça se fera pas, ça s'est déroulé merveilleusement. Donc le côté, oui, mais la rue Le Pic, ça va être compliqué pour sécuriser. On sait le faire, donc on peut le faire.
Ils ont bloqué la circulation sur Paris pendant 3 jours.
Eh ben,
mais ça a été fait.
Bloquons et kiffons.
Ouais, ça fait combien d'années qu'elle est bloquée?
Oui,
c'est ça.
Juste bloquée. Et aussi, ouais, sur le côté, on ne pourra pas dépanner et tout ça. Et pendant Paris-Roubaix, il y a un moment donné, ça devient trop compliqué.
Oui, mais
de dépanner.
Paris-Roubaix, c'est une journée, mais c'est la course du jour. On n'est pas dans la même situation psychologique et dans la même
approche. Mais si Pogacar a un problème mécanique dans la montée de Le Pic, qui perd le tour le dernier jour, je pense que ça peut faire tousser.
J'ai comme le sentiment que c'est une chose qu'on veut un peu se rapproprier les images qu'on a eues sur les Jeux Olympiques, laissons-les là où elles sont.
Mais non, prolongeons l'honneur.
Mais laissons-les là où elles sont. Le Tour de France, il existe.
Le Tour à Paris, c'est une tradition.
Mais le Tour de France, mais d'ailleurs, on va fêter les 50 ans de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Bah faisons un immense spectacle sur les Champs-Élysées. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de tirer la corde des Jeux Olympiques. Sur le plan logistique, pour connaître un peu ASO, pour avoir travaillé avec eux, logistiquement, ils sont capables de relever des défis incroyables. Mais celui-là, il n'est pas évident sur une dernière journée du Tour. Et oui, c'est un peu la parade. C'est un peu la parade sur les Champs-Élysées. Et le Tour, à Paris, fin juillet, il n'y a jamais eu une ambiance débordante sur les routes du Tour. Hein. Il y a beaucoup plus d'ambiance sur les 19 autres étapes que sur les 21. Sur celle de la dernière. Il n'y a pas tant de monde que ça.
Il y a du monde,
mais il n'y a pas tant de monde que ça.
Elle a commencé en s'attaquant au Tour de France. Elle termine en s'attaquant au Tour de France. Bravo, ça.
Je suis extrêmement
déçu. Les pieds sur le Tour de France. Ah, tu m'enlèves ce pull jaune. Tu n'es pas. Ouais. Tu n'as pas
les... Je suis pas. Allez, leader. Non, je suis pas leader.
Merci Christophe Cessieux, merci Marc Madio, Sarah Pitkowski, Denis Charvet. Encore une très très belle émission. On se retrouvera demain à partir de 9h, évidemment avec un invité exceptionnel, c'est Yoann Richaume, deuxième du Vendée Globe. Nous on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. On va vous parler de tennis, évidemment, de l'Open d'Australie, mais également de Ligue 1 avec l'Anse PSG. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 13h, les paris RMC.